Bonjour, ici donc à Blainville pour une nouvelle interview au Quai Hebdo. Avec, je vais le laisser se présenter comme c'est un petit peu la tradition chez nous, le président du Hockey Club de Blainville dont on vient, alors on a pris quelques photos et vous les aurez avec l'article, on vient de visiter les installations. C'est vrai que c'est grand, il y a de la place à Blainville et il y a du hockey à Blainville, ça c'est sûr. Vous pouvez vous présenter rapidement ?
Oui, Philippe Magnéna, président du hockey mineur de Blainville depuis 6 ans maintenant. 1400 joueurs, effectivement, c'est gros comme association, 91 équipes. Donc, oui, c'est ça, comme vous le dites, c'est gros.
Ça vous classe comment au Québec? Christine me disait en venant, a priori, c'est les plus gros du Québec?
C'est la plus grosse association pour une seule ville. Ici au Québec, il y a plusieurs associations qui fusionnent des villes, comme par exemple Mirabel, où il y a à peu près 8 municipalités, mais nous, on est une seule ville. Puis on est un club privé, c'est-à-dire on est rattaché physiquement à la ville par rapport à l'identité, mais on est géré par nous-mêmes.
Comment on devient président du hockey club de Blainville? On s'implique au départ dans les mineurs, on a des enfants qui sont eux-mêmes à Blainville, parce que j'imagine que c'est un poste de dirigeant qui demande beaucoup de temps.
Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivé ici au Québec en 2002 okay. avec ma femme et mes deux garçons. Et puis, la première année de mon arrivée, je ne travaillais pas pour des problèmes d'immigration, etc. Ça fait que je me suis annoncé ici comme bénévole dans l'association. Puis j'ai créé le premier site internet. Puis j'ai fait du bénévolat. Puis de fil en aiguille, je suis passé superviseur dans les équipes. J'ai suivi mes enfants, mes deux garçons jouent au hockey. Puis l'un dans l'autre, ensuite vice-président d'administration, ensuite vice-président adjoint, puis depuis 6 ans, président.
Alors, il y a chez vous une pointe d'accent suisse hein, que nos lecteurs perspicaces attendent très bien parce qu'on est un site francophone. Donc là, on mélange Suisse, Québec, France. Là, c'est super. Le mélange est parfait. Vous êtes vous-même un ancien joueur. Vous aviez joué en Suisse avant. Vous avez des enfants aujourd'hui qui jouent, je crois, au niveau suisse.
Oui, tout à fait. Non, moi, j'ai jamais joué personnellement. J'ai arbitré quand j'étais plus jeune hein, ou okay. plus vieux en Suisse. Et puis, mes deux garçons jouent encore au hockey. Mon plus grand garçon qui a 20 ans joue dans l'association ici, dans le Junior A, qui est une ligue pour les jeunes, une ligue des garages, comme on appelle, mais organisée. Puis, mon autre garçon, mon plus jeune, lui, il joue en Suisse actuellement, en Junior Elite, à Lausanne, au Lausanne Hockey Club. Puis, il a participé au camp d'évaluation de la Ligue B. Puis, c'est un petit gars qui a joué une saison complète avec Robin. C'était son défenseur.
Ok, donc bon, très bien. Quand vous êtes arrivé au Québec, bon, vous aviez déjà une expérience, j'imagine, du hockey suisse. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, peut-être quelques anecdotes, où vous avez retrouvé finalement ce qui existe déjà en Suisse, où il y a de grosses différences? Là, on me disait en venant, c'est une aréna privée. C'est vrai qu'en France, il en existe quelques-unes, mais c'est quand même assez exceptionnel. En Suisse, je ne sais pas s'il en existe des privés. Est-ce que les structures sont différentes?
Ben, les structures de base sont bien équivalentes à la Suisse. Il y a des arénas qui sont privées, il y a des arénas qui sont publiques. Ici, c'est public. On a une aréna semi-privée à Boisbriand qui est un centre de sport où on utilise ces infrastructures. Mais la différence en 2002, quand je suis arrivé, c'est que mes enfants en Suisse pratiquaient à raison de 3-4 fois par semaine, puis ils jouaient une game ou une partie en fin de semaine. Puis quand on arrive ici au Québec, c'est le contraire, on fait une pratique par semaine, puis on joue 3 games le week-end. Donc j'ai trouvé ça un peu surprenant pour un pays de hockey, mais le fait est qu'il y a tellement de joueurs de hockey pour une ville de 55 000 habitants. En 2002, on était 600 joueurs, là, puis on est rendu 1400 joueurs aujourd'hui, donc 7-8 ans après, là, ça a comme doublé. Mais ça, c'est le phénomène des villes périphériques du Québec. Là. Tout le monde quitte Montréal pour s'installer dans la périphérie. Puis Blainville, c'était une ville à connotation jeunesse et famille. Donc automatiquement, les jeunes familles viennent s'installer ici. Et puis l'association de soccer, de football, là, comme on appelle, c'est 2500 joueurs. Donc c'est aussi la plus grande association de soccer au Québec. Donc on a 18 000 jeunes à Blainville, de 0 à 18 ans inscrits. Donc plus de 47 associations sportives et plus de 4 000 bénévoles. Rien qu'à Blainville, dans mon association, j'ai 400 bénévoles qui travaillent pour nous.
Comment on fait? Parce que bon, le soccer a un avantage, c'est que bon, on joue dehors, il peut y avoir pas mal de terrain. Là, vous avez deux glaces. Comment on fait pour distribuer les heures de glace? Comment on fait pour faire les emplois du temps? Parce que quand on voit en France des gens qui se cassent la tête, ils ont une glace, ils ont six équipes qui se courent après, ils ont du mal. Vous, vous faites comment là?
Ben, pour la petite anecdote, l'année passée, j'avais 8 plateaux de glace parce qu'on n'avait pas 3 glaces, on avait 2 glaces ici, puis 6 à l'extérieur. Ça prend des bénévoles et ça prend des gens qui gèrent justement cette infrastructure-là. On a des programmes informatiques qui font ça. On est bien aidé par l'informatique, mais on a beaucoup de bénévoles qui travaillent depuis chez eux, à distance, et font la gestion des glaces. Mais c'est une grosse machine, surtout qu'on a... La ville nous offre les glaces. C'est pas tout à fait le même concept qu'en Europe ou en Suisse où c'est les clubs qui payent les glaces. Ouais. Mais à Blainville, ça coûte 170 $ pour jouer au hockey, 190 $ pour jouer au hockey. Mais les glaces sont données par la ville sur un ratio de 1-12, c'est-à-dire 12 joueurs, c'est une heure de glace. Donc moi, je gère avec mes bénévoles à peu près 120 à 130 heures de glace semaine pour les enfants.
Alors pour un jeune en moyenne, hors équipement, hein, combien ça coûte une saison de hockey à Blainville? Il faut payer les entraîneurs? Comment ça marche?
Non, pas du tout. C'est dans le simple lettre, qui est le hockey pour s'amuser, c'est 190 $. Dans l'intercité, c'est 190 $ plus environ 200 $ de frais supplémentaires pour la compétition. Moi, j'ai 12 équipes compétition. Et puis ceux qui vont jouer dans le 2A, donc l'élite régionale, c'est à peu près 190 $ de base, plus à peu près 800 $ de frais. Mais là, on ne compte pas les déplacements des parents, on ne compte pas les frais d'hôtel, etc. Donc l'investissement de base pour jouer au hockey ici est pas cher. Et on a même un programme pour soutenir des familles qui ne pourraient pas payer ce genre de choses.
Alors justement, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que c'est un peu des questions qu'on voit régulièrement en Europe, notamment en France. Bon, il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées dernièrement, la Fédération française de hockey, pour dire qu'il faudrait peut-être quand même s'occuper un peu de ceux qui ont un peu de mal à se payer l'équipement, à se payer, etc. Je sais qu'au Québec, ce type d'aide existe. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette question d'aide justement autour, aide communautaire?
Oui, il y a la fondation Canadian Tire. Canadian Tire, c'est une grosse chaîne de magasins d'articles généraux. Eux, ils ont une fondation qui permet justement l'accès aux familles qui ne pourraient pas se payer du hockey. Donc ces gens-là, ils font la demande à Canadian Tire. Et puis ensuite, c'est avec les villes et les associations. Canadian Tire paye la différence à l'association pour l'inscription des enfants. Puis nous, l'association, on a aussi un petit budget pour aider les familles. On garde aussi du matériel, on donne du matériel, on essaye d'offrir le maximum. On n'empêchera pas un enfant de jouer au hockey, c'est ça le but. Le hockey doit être le sport canadien, le sport au Québec, puis je pense que n'importe qui a le droit de jouer au hockey. Donc avec ce moyen, cette structure qu'on a, qui a été implantée ici, au Québec, on donne l'ouverture à n'importe quel jeune, mais c'est clair qu'à un moment donné... celui qui va jouer compétition, on ne pourra pas subvenir aux besoins des parents parce qu'on n'a pas trop les moyens de payer des saisons de hockey parce que dans la compétition, la haute compétition, budget 3A, où ça coûte extrêmement cher, même très cher. On parle de dizaines de milliers de dollars. Là, on s'en va des investissements personnels qui sont assez importants. Puis il y a même des parents qui hypothèquent leur maison pour que leurs enfants puissent jouer dans l'élite. Puis ça, à mon avis, ce n'est pas normal. Puis ça, c'est quelque chose qui devrait changer, mais on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, mais on s'approche de la réalité, c'est que le meilleur joueur de hockey, s'il n'a pas des parents qui le soutiennent, pas seulement financièrement, mais point de vue déplacement, d'aller jusqu'à Jonquière, d'aller jusqu'à 7-8 heures d'autobus, dormir à l'hôtel, etc., s'il n'y a pas des parents qui sont capables de le faire, c'est bien difficile.
Alors justement, on parle des parents, en l'occurrence québécois, qui effectivement font peut-être plus d'efforts que certains parents européens qui ont moins de distance à faire ou se préoccupent un peu moins, on va dire ça comme ça, de leurs enfants. Je pense au cas grenoblois qu'on connaît un tout petit peu, c'est vrai que c'est parfois un peu difficile, c'est toujours les mêmes qui font certains efforts. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de ces parents? Alors j'imagine que vous êtes de temps en temps le bureau des pleurs, c'est vous qui recueillez en tant que président les problèmes. Comment ça se passe? J'imagine, à vous voir, ça doit être plutôt serein. Mais est-ce qu'il y a souvent des parents qui vous appellent, tard le soir, en disant « mon fils n'a pas performé, ça ne va pas ». Est-ce qu'il y a souvent des comportements qui vous agacent? Racontez-nous un tout petit peu justement le rôle d'un président dans ce cadre-là.
Ben, la réalité, Manon, c'est que c'est vrai que les parents là, sont obnubilés par la Ligue nationale, par l'argent. Ils voient tous leurs enfants dans la Ligue nationale, mais dans notre association à Blainville, tu as plus de chances de devenir arbitre que de jouer dans la Ligue nationale. Moi, à Blainville, le dernier qui a été repêché dans la Ligue nationale, c'est il y a 15 ans en arrière, c'est Jean-Sébastien Giguère. Puis le dernier qui a été repêché, c'est cette année, c'est Maxime Clermont, qui a été repêché en 6e ronde par le New Jersey, avec Brodeur. Puis ce petit gars-là, c'est des exceptions. Donc, en 15 ans, pour une association comme nous, on n'a pas de joueurs. On a des vedettes, on en a. J'ai à peu près 15 joueurs de Blainville qui jouent dans le junior majeur. Mais celui qui va, beaucoup d'élus, mais est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale? Ça, c'est une autre chose. On dit statistiquement au Québec qu'il y a un joueur sur 5 000 qui met le pied dans le réseau professionnel. Ça veut dire qu'il y a 1 000 pieds dans le réseau professionnel, mais il ne joue pas. Donc, cette attente-là de certains parents fait que lorsqu'on a des coupures, comme maintenant, on est dans les évaluations, il y a des parents qui appellent et qui ne sont pas contents parce qu'on a mal évalué sur leurs enfants. Moi, j'ai de la chance à Blainville, c'est que j'ai beaucoup d'anciens joueurs de la Ligue nationale qui sont ici comme bénévoles. Puis j'utilise ces gens-là parce que ça prend des gars de hockey pour gérer du hockey. Ça prend des gars de hockey pour être sur la glace. Puis une association, moi j'ai 28 membres de comité, donc on n'est pas tous des gars de hockey. Moi j'ai jamais joué au hockey, donc je peux pas. On connaît le hockey, on peut expliquer aux parents certaines choses, mais je peux vous dire, j'ai eu des huissiers de justice qui se sont présentés ici à mon bureau avec une mise en demeure, me disant que si mon fils remontait pas dans l'équipe telle et telle, je le poursuivais avec des actes. C'est incroyable. C'est la réalité du hockey maintenant, c'est qu'il y a tellement d'attentes. Les parents sont tellement en attente de la performance, puis les enfants doivent performer en permanence. On doit performer à l'école, on doit performer au hockey, dans le sport, on doit performer tout le temps. C'est la pression qu'on vit actuellement, c'est la nouvelle génération. Mais c'est clair qu'on est là pour répondre aux questions, puis des fois, on peut dire au Québec, c'est rock'n'roll, il y a des parents qui rentrent ici, là. Je vous dis, heureusement que je suis assez solide, là, mais je veux dire. Mon expérience de vieux soldat, là, me fait que je suis capable d'en prendre, puis je suis capable de répondre aux questions.
Un mot sur l'arbitrage. Vous êtes donc un ancien arbitre. On salue d'ailleurs les arbitres au Quai Hebdo. On rappelle un site qui les aime bien et on est en train un peu de discuter sur des partenariats avec leurs nouveaux responsables, dont vous trouverez d'ailleurs l'interview sur notre site. Est-ce que vous avez des cas de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui viennent vous voir en disant, bah moi, non, jouer, non, je suis pas assez bon, etc. Par contre, moi, ça m'intéresse de venir travailler avec vous sur de l'arbitrage. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une crise de vocation comme en France où on trouve personne pour arbitrer, ou il y a des jeunes que ça intéresse.
En règle générale, tous nos arbitres à Blainville sont des anciens joueurs de hockey. Donc, souvent, dans la catégorie bantam midget, où le contact fait que certains joueurs ne veulent plus jouer contact, ils s'inscrivent dans notre corporation. Il y a un bureau régional des arbitres avec une formation. Donc, chaque région a un arbitre en chef. Et puis, il y a des formations. Ils les prennent vers 15 ans, 16 ans, des plus jeunes, des fois 14 ans. Puis on a une relève qui se fait chaque année. Là, j'en ai pour une dizaine cette année qui sont annoncés, qui veulent faire arbitre. Mais nous, l'association, on les annonce aux responsables régionaux, puis ceux qui font la formation, qui s'en occupent, puis qui les gèrent. Nous, en définitive, c'est clair que pour nous, c'est intéressant d'avoir des arbitres, des jeunes arbitres. Puis c'est clair qu'il y a quand même une petite pénurie, mais beaucoup voient le côté aussi pécunier, donc de se faire un petit peu d'argent. C'est quand même relativement bien payé pour le Québec. Hein, 17 $ une game, c'est bien correct. Mais je veux dire, il n'y a pas d'arbitre qui devient millionnaire ici au Québec. Puis j'ai des arbitres de Blainville qui sont été sélectionnés cette année dans la Ligue Midget 3. Et puis j'en ai deux qui sont dans le junior majeur. Donc l'un dans l'autre, c'est la même chose. L'intérêt est là, mais c'est clair qu'un petit gars qui n'a pas joué au hockey, c'est pas mal difficile de devenir arbitre. Celui qui ne connaît pas le hockey, là. D'abord, il faut être un bon patineur, déjà savoir patiner. J'ai mon garçon qui arbitre, d'ailleurs, il arbitre aussi dans le 2A, puis lui, il a même arrêté de jouer au hockey pendant 2 ans pour ses études, puis là, il a recommencé, puis il arbitre à côté de ça. Donc, l'arbitrage, c'est un bon moyen de se faire des petits sous comme étudiant, et puis il y a du bon niveau. Le niveau d'arbitrage est quand même bon quand on pense que c'est quand même. Il faut le faire, hein, de diriger une équipe, hein, puis des fois, c'est pas mal. Dangereux l'année prochaine, on a un arbitre qui s'est fait frapper, un coup de bâton cassé sur la tête, police, etc. C'est pas tous les jours facile. La vie d'arbitre, là, c'est assez difficile.
On voyait comment dire, vue d'Europe où on a les hooligans en football. Hein, on est en France, on a le PSG, pour commencer par citer les meilleurs. Bon, il y a d'autres clubs, je vais me faire des amis avec les hooligans du PSG, mais enfin bon, passons. Il y a eu pas mal de problèmes par le passé. On voyait plutôt le Québec loin de ces questions-là. Et puis, moi, depuis que je suis là, on m'a dit à plusieurs reprises, ah, mais c'est pas forcément dans le public, c'est les parents. C'est les parents ou c'est parfois les joueurs qui s'excitent, c'est pas forcément le public. Il y a des problèmes de violence chez vous comme ailleurs, c'est encore exceptionnel ou vous faites attention, vous êtes vigilant?
Oui, tout à fait, on est très vigilant par rapport à ça. D'ailleurs, on a un code d'éthique, le code d'éthique du parent, on a le code d'éthique du joueur, et on fait signer les codes d'éthique au début de la saison, et les parents sont sensibilisés aux problèmes de comportement dans les estrades, dans les arénas. Et puis moi, je rencontre tous les parents au début de la saison dans les équipes de compétition, parce que c'est plus dans les équipes de compétition où il y a plus de pression, où on sélectionne les parents, on les connaît, les parents qui se tiennent pas correctement. Et puis on a des moyens dans notre association avec un comité de discipline qui rencontre les parents, les joueurs. Sur la glace, c'est clair que c'est l'arbitre qui est le boss en définitive, mais l'arbitre peut donner aussi une pénalité de foule, comme on appelle ici au Québec, ou si des parents viendraient à cracher sur l'arbitre, lancer des objets, il peut donner un 2 minutes de pénalité. Et puis, il peut même arrêter la game. Ça, c'est déjà vu, d'arrêter la game. Mais c'est toujours de la violence contrôlable. C'est rarement de la violence avec des gestes. C'est plus de la violence verbale. Souvent de la violence verbale, mais des fois qui sort un peu des limites du bon entendement. Mais on a les moyens de sensibiliser les gens. Et puis, en les passant dans notre comité de discipline, on peut leur expliquer. On peut même, l'année passée, on a interdit les parents pendant 6 semaines de se présenter à l'aréna. Ça fait réfléchir, et puis ces gens-là sont catalogués. Mais en règle générale, sur 1 500 joueurs, je parlerai de 3 000 parents, là, j'en ai peut-être 4-5 qu'on connaît qui sont pas faciles à vivre. Mais n'empêche pas qu'ils sont encore là, puis ils sont les bienvenus.
Pour conclure, bon, vous avez eu une expérience évidemment européenne avant d'arriver au Canada. On a bien compris que vous avez pris vos marques dans l'organisation, donc des bastions, je crois qu'on dit des bastions. Est-ce que vous avez des futurs projets? Quels vont être un peu enfin, comment dire, vos buts, vos principales attentes dans les deux, allez, 2, 3 ans qui viennent? Est-ce que vous avez des projets de développement? Est-ce que vous aimeriez peut-être, je sais pas, envoyer des jeunes en Europe à un moment ou à un autre pour des tournois? Enfin, est-ce que vous avez quelques projets là à partir de cette année que vous aimeriez concrétiser?
Ben là, moi, j'ai signé, en définitive signé. J'ai été élu, parce que c'est démocratique, j'ai été élu par l'Assemblée des parents pour 2 ans, pour les 2 prochaines années. C'est clair qu'on a des objectifs, on a des buts qu'on se fixe avec le comité. Des buts personnels, on en a toujours, mais c'est des buts collectifs. Nous, on aimerait mettre beaucoup d'emphase sur la sélection des joueurs et sur la formation des entraîneurs. Il y a un gros manque ici au Québec, je vous le dirais, c'est la formation des entraîneurs. Les entraîneurs de hockey là, qui font 2 jours, un week-end, puis deviennent coach. Là, pour moi, c'est pas ça la vie d'être coach, là. Donc, essayer de donner une emphase sur la formation, puis surtout une emphase sur la formation des tout-petits, là. Moi, j'ai 180 tout-petits joueurs de 5 et 6 ans. Et puis, c'est là qu'il est important de mettre les bonnes personnes sur la glace, parce que c'est souvent des parents qui font un travail exceptionnel. Mais ça prend aussi des gars de hockey, puis des formateurs, des pédagogues, puis des gens qui ont une connaissance technique. Donc, nous, on aimerait mettre de l'emphase là-dessus. C'est clair qu'une association comme nous, on a les moyens financiers de pouvoir payer des super coachs. On en a, et on les utilise. On a les moyens d'utiliser des gars comme Patrick Poulin, Éric Desjardins, 19 ans en Ligue nationale, Donald Odette, Patrick Labrecque, Stéphane Matteau, c'est tous des noms de la Ligue nationale, c'est tous des joueurs de hockey qui sont ici pour nous aider. Donc, en créant cette structure de formation interne, on espère trouver des solutions, puis, et puis donner une emphase que Hockey Québec, enfin, un jour, essaye de nous aider. Parce que pour l'instant, la formation, c'est nous qu'on la paye. Hockey Québec donne la formation, mais c'est les associations qui payent. Moi, ça me coûte 200 $ par coach en formation, puis j'en ai à peu près 30 à 40 par année qui vont en formation. Donc, c'est quand même de l'argent. Cet argent-là, on ne le garde pas pour les enfants. Cet argent-là, on le donne à Hockey Québec. Mais c'est correct, c'est le concept qui veut ça. Mais si je compare à la Suisse ou dans d'autres pays européens, un entraîneur de hockey s'en va faire un cours d'une semaine minimum. La seule chose, c'est qu'il peut aller le faire parce que son employeur va lui payer sa perte de gain. Ici, au Québec, c'est tout de la poche du monde. Tout le monde sort l'argent de sa poche pour s'investir. C'est un peu ça. Mais je vous le dirais, pas être méchant, là, mais il y a 25-30 ans en arrière, le Canada a été vu par le monde comme la Mecque de hockey. Là, mais gentiment, les Européens rattrapent en formation et en structure le Canada. Le Canada et le Canada et le Québec, ouais, que d'ailleurs on le voit, là, ils se plaignent tous par la radio là, qu'il n'y a pas de gars dans le junior majeur. Mais ouais, mais regardez, il faudrait peut-être venir voir à la base ce qui se passe, puis venir parler avec des associations, puis se parler un petit peu. Là. Parce que aide-toi par toi-même, car personne ne t'aidera. C'est un peu le motto là, que je dirais. Mais c'est un gros pays de hockey, il y a 100 000 joueurs inscrits au Québec. C'est une grosse machine. Blainville, c'est plus gros que les trois plus grosses villes en Suisse de hockey. Donc, puis on a juste 50 000 habitants. Donc, c'est pas comparable. La formation pourrait être meilleure. On travaille là-dessus.
Président, merci pour cet entretien. Bon, on a, je crois que ça nous aura vraiment aidé. Ça aura, je pense, nos lecteurs auront effectivement, enfin nos auditeurs, plutôt la circonstance, je crois, auront mieux compris effectivement certains enjeux du hockey québécois qu'on essaye effectivement de vous faire découvrir actuellement. Merci encore. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt. Pourquoi pas d'ailleurs en Suisse sur un game de Lausanne.
Bah oui, pourquoi pas. Et puis, j'ai un super bon bénévole ici à Blainville qui est un ancien joueur français. Qui s'appelle Monsieur Pérez.
Ah oui, qu'on connaît bien en France. Qui est, oui.
C'est un bénévole ici à Blainville. Et puis, c'est ça. Ça veut dire qu'on a quand même des gens qui viennent de la France. J'ai des nouveaux arrivants qui sont arrivés il y a un mois ici à Blainville. Puis c'est des petits Français, puis c'est des petits gars de hockey, puis c'est des parents de hockey. Puis on est les bienvenus, on les accueille à bras ouverts. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Bravo, et puis bonne saison.
Merci.